Et l'invité du grand entretien ce matin est philosophe, écrivain. Il y a un an, il fut aussi homme de radio pour France Inter. Il nous avait offert en 2018 un été avec Paul Valéry, série d'émissions devenue un livre du même titre, publié aux éditions des Équateurs. Dialoguez avec lui dans quelques minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application de France Inter. Bonjour Régis Debray.
Bonjour Nicolas.
Et bienvenue, bon retour dans les studios d'Inter. On va parler ensemble, je le citais tout à l'heure, de celui que vous appelez un faux vieux monsieur, un importun très opportun, un illustre inconnu auquel chaque année qui passe donne un coup de jeune. Il fut poète, philosophe, homme de mots, de discours. Des générations d'élèves ont commenté et disserté sur son œuvre. Il est devenu une monumentale momie encensée par la République. Vous l'avez réveillé. Mais pour vous, commençons par là et d'un mot. Paul Valéry, c'est aussi un souvenir personnel, Régis Debray, peut-être même intime. Vous le dites au début de ce livre, ça nous ramène 50 ans en arrière quand vous êtes emprisonné en Bolivie. Comment Valéry s'est-il alors rappelé à vous ?
Bah, vous savez, quand vous n'avez rien à faire, vous êtes enfermé dans un coin perdu, il y a des choses qui remontent. Et là, on remontait spontanément... Des vers appris à l'école, comme « Ils ont fondu dans une absence épaisse, l'argile rouge a bu la blanche espèce, le don de vivre a passé dans les fleurs ». Je n'étais pas sûr d'avoir le don de vivre, donc je me dirais bah, « il y aura des fleurs, ce sera pas mal ».
Et donc merci Valéry.
Oui, merci Valéry, parce qu'il vous soutient dans la détresse, mais on pourrait dire aussi la même chose d'Apollinaire ou de Rimbaud. Mais moi, c'était Valéry, et je ne comprends pas encore pourquoi.
Un mot pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers de Paul Valéry, et je me range dans cette catégorie, Régis Debray. Est-ce un écrivain, un intellectuel, un philosophe, un poète, un homme politique, un Victor Hugo ? Comment le décrire ? En tout cas, le moule est cassé, non ?
Écoutez, moi je dirais un casseur d'assiettes, qu'on a affublé d'un col dur, qu'on a mis dans un frigidaire académique et qu'il faut absolument décongeler, ce que j'ai pu faire grâce à France Inter et à votre directrice intrépide, Laurence Bloch.
Ah oui.
Je ne faillote pas, hein, je dis la réalité.
Parce que c'est alors vrai... vous nous l'avez décongelé, qu'est-ce qui apparaît ?
Bah écoutez, il y apparaît quelqu'un... qu'on a mis dans le placard parce qu'il est très dérangeant, en fait, parce qu'il nous assène des vérités généralement qu'on ne dit pas. Il nous révèle un peu le dessous des cartes, si vous voulez. Il a ce qu'il appelle des mauvaises pensées, qu'on peut d'ailleurs lire en plein soleil en gagnant du temps, si vous voulez. Par exemple, si je vous dis « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Ou encore, si je vous dis « tout ce qui est simple est faux, tout ce qui ne l'est pas est inutilisable ». Vous connaissez ça. Ou encore « la faiblesse de la force est de ne croire qu'en la force ». Monsieur Castaner devrait méditer ce petit point, n'est-ce pas ?
Redites.
« La faiblesse de la force est de ne croire qu'en la force ». Ou encore « qu'est-ce qu'un expert ? Un homme compétent ». Qu'il se trompe selon les règles. Enfin, vous voyez,
Paul Valéry, là
c'est
encore.
C'est une gerbe comme ça, non pas de paradoxe, mais de choses qui vous ouvrent les yeux, tout simplement.
Vous écrivez, Régis Debray, c'est un contemporain capital à même de nous aider à devenir nous-mêmes contemporains du présent. Explication de texte.
Bah, écoutez, c'est un lanceur d'alerte.
Ah bon ?
Oui. Parce qu'il a tout compris de notre époque, il a expliqué ce que nous sommes en train de vivre ou même de subir. Si vous voulez, il a décrit la mondialisation avant qu'elle n'arrive, il décrit ça le monde de l'ubiquité, il a décrit le réveil de l'Asie, il a même décrit la fin de l'Europe. Alors c'est tout de même bizarre, vous allez me dire. Mais en tout cas, il a aussi décrit notre habitude de zapping, les dangers de l'immédiateté, la suprématie absolue de la musique, qui fait que on ne peut plus s'entendre dans un lieu public, n'est-ce pas ? Enfin, c'est un homme, si vous voulez, il a décrit l'atome égalisateur, c'est-à-dire le fait que la diffusion de la technique fait que la Corée du Nord peut parler d'égal à égal avec les États-Unis, parce que simplement la Corée du Nord a la bombe atomique. C'est ce qu'il appelle la puissance égalisatrice de la technologie. Enfin, vous voyez, c'est aussi un géopoliticien, pas seulement un poète, et qui, en se retranchant un peu du monde actif, lui a permis de le comprendre. Mmh. C'est-à-dire vraiment, c'est quelqu'un, je crois, qui peut nous servir, quoi, à mieux, je dirais, démystifier un certain nombre de lieux communs.
Il n'aime pas les grands mots non plus, Régis Debray.
Non, il veut de l'exactitude, il veut de la précision, il veut de la prévision. Donc, il ne se laisse pas, je dirais, promener par des grands mots.
Liberté, justice, Europe,
voilà.
Progrès.
Oui, des mots qui pensent pour nous-mêmes et qui nous empêchent de penser par nous-mêmes. Mmh. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est très décapant, hein, c'est comme un rayon laser comme ça, sur toutes les choses qui nous entourent.
Quelle était sa pensée de l'Europe?
Ben écoutez, il a été une sorte de commis voyageur de l'Union européenne avant la lettre, si vous voulez, parce qu'il sortait de la guerre. À partir de 1919, si vous voulez, c'est toujours après un grand désastre, c'est toujours après une guerre fratricide que naît ce qu'on peut appeler le besoin d'Europe. Parce que nous sommes tous en mal d'Europe, mais l'Europe nous fait mal. Nous sommes en mal d'une Europe rêvée, et puis nous constatons l'Europe telle qu'elle est. Et donc Valéry est exemplaire, si vous voulez, de ce cheminement d'un homme traumatisé par l'immense massacre, comme on l'a été nous en 39-45, et qui est lentement passé du « plus jamais ça » à « tout ça pour ça ». C'est-à-dire qu'au fond, il s'est vraiment donné, il a été dans toutes les capitales d'Europe, prêcher l'union, la réconciliation, il a même été à Alger, à Tunis, parce que l'Europe, pour lui, c'était la Méditerranée. Mmh. Hein. C'est devenu l'Europe du Nord, hein. Tous les centres de décision sont au Nord, Luxembourg, Francfort, Strasbourg, etc. Mais lui, c'est un homme du soleil, c'est un homme de la Méditerranée, c'est un homme de ce qu'on appelle la pensée de midi, un peu comme Albert Camus, si vous voulez. Donc, il a vraiment beaucoup donné jusqu'à constater. Il a fait ce mot incroyable. Le dernier enregistrement qu'on a lu, il meurt en 1945. Le général de Gaulle lui donne des funérailles nationales qui montrent à quel point, si vous voulez, un écrivain pouvait être non seulement célèbre, mais un peu tenu pour un interlocuteur par les plus grands hommes d'État. Souvenez-vous, mais vous vous en souvenez pas, et moi non plus, je l'ai appris en lisant le journal de Daniel Cordier, Jean Moulin voulait faire de lui le président de la République.
De Paul Valéry.
Il l'avait dit à Daniel Cordier, comme ça, mais il s'imaginait quelque chose comme la Troisième République, un président symbole. Mais il disait qu'il ne pouvait pas y avoir de meilleur représentant de la France que Paul Valéry. C'est vous dire le prestige qu'il avait.
Le rôle, dites-vous, Régis Debray, en parlant de Paul Valéry, il était l'incarnation du rôle encore extraordinaire des lettres dans la République française. Ça, c'est totalement fini.
Oui. Il l'avait d'ailleurs
prévu. Qu'est-ce qui est mort avec ça, d'ailleurs?
Ben, il avait prévu un peu, si vous voulez, pas la fin, mais l'exténuation de la culture écrite. Il avait prévu le règne de l'image, il avait prévu le règne de la radio et même de la télévision. Vous savez comment il l'appelait la télévision, il avait dit dès 1920, un jour viendront des sociétés de distribution de réalité sensible à domicile. Il était déjà très frappé par la radio, il attendait l'image en direct. Donc, effectivement, on a du mal à penser qu'un poète assez difficile, et même, je dirais, pour ce qui est de sa prose, un emmerdeur patenté, hein, parce qu'il n'était d'accord avec personne, qu'on lui ait rendu cet hommage-là, que le général de Gaulle tout de suite l'a invité en 45 à déjeuner avec lui. Oui, ça a été un moment, si vous voulez, de ce qu'on peut appeler l'Europe de l'esprit, où il y a eu une conversation européenne animée par Valéry entre des écrivains, des artistes allemands, espagnols, etc. Et tout ça se passait à Paris, en français.
Mmh. En vous lisant Régis Debray, on apprend, en tout cas moi je l'ai appris, que la conquête de l'ubiquité de Paul Valéry est une lecture obligatoire à l'ENA.
Non, écoutez, ça m'apprendra à faire des farces.
C'est une fake news.
C'est une fake news, exactement. Chacun sait que l'ENA est un moule à gaufres. Chacun sait qu'on y formate des esprits avec ce qu'il y a de plus convenu et de plus bête. chacun sait que c'est là où la classe dirigeante recrute ses futurs serviteurs. Alors bien entendu que Valérie est impossible dans ce contexte-là, mais effectivement, écoutez, c'est une boutade.
Oui.
Voilà.
La conquête de l'ubiquité donc devrait être lecture obligatoire. On parle de supprimer cette école. J'en profite, Régis Debray, pour vous poser la question. L'école nationale d'administration, les grands corps auxquels elle forme, que pensez-vous d'un trait de plume de ce genre ?
Écoutez, si on la remplace pas par des écoles de commerce, ça me semble très bien, mais tout dépend de ce qu'on mettra après. C'était quelque chose que déjà Jean-Pierre Chevènement réclamait hein, dans les années 70. Donc, on ne détruit que ce qu'on remplace. Par quoi remplace-t-on l'ENA ? C'est le problème. Si c'est par HEC ou par l'ESSEC, on sera un peu déçu.
Mais est-ce que ça n'est pas assez étrangement Laurent Berger, enfin pas étrangement, mais c'est en tout cas lui qui le dit ce matin dans une longue interview au quotidien L'Opinion. Il dit en substance que cette suppression de l'ENA, en tout cas c'est la promesse qui a été faite ou la phrase qui a été dite, c'est une forme de démagogie anti-élite bien dans l'air du temps. Vous diriez la même chose vous aussi ?
Moi, je parlerais d'un technopopulisme.
Ah, expliquez-nous.
Oh ben, je veux dire que c'est un peu la ligne actuelle, c'est-à-dire le populisme, parce que au fond, c'est un peu une démagogie. C'est un peu, je dirais, faire plaisir à un certain nombre de gens qui râlent un peu contre cette oligarchie. Mais techno, parce qu'on au lieu de prendre les problèmes de front, on aligne des mesures, je dirais, de détails, de procédures, des mesures techniques. Donc, on critique beaucoup le populisme, mais le technopopulisme, ça marche très bien chez nous.
Donc, c'est le mariage du populisme et de la technocratie, c'est ça ?
Eh ben, vous l'avez dit, Nicole Demorand, je n'ai rien à ajouter. Vous êtes un esprit caustique.
C'est vous qui avez commencé.
Non, mais je veux pas vous compromettre.
Non, tout va bien. J'aimerais aussi vous poser une question. Il y a une phrase au tout début de ce livre sur Valérie. Un monument est un édifice dont on n'a plus l'usage. Vous dites ça pour lui, hein, pour le grand écrivain embaumé par la République. Un monument est un édifice dont on n'a plus l'usage. Est-ce que vous le diriez de Notre-Dame de Paris ?
Non. Parce que Notre-Dame nous rappelle l'épaisseur de notre histoire, nous rappelle que la foi chrétienne a joué un rôle décisif aux origines de la France et aussi aujourd'hui. Donc on a eu là un moment de communion, je dirais, patriotique, très émouvante.
Quels sentiments vous ont traversé quand vous avez vu les flammes, la flèche s'effondrer ?
J'ai pensé à la phrase de Valérie, hein, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels et de voir ces flammes, c'était un peu une vision d'apocalypse. Donc on se disait, oui, Valérie a peut-être eu raison, les choses sont très fragiles, sont très précaires et ce qu'on croit définitif peut s'effacer. Donc oui, j'ai eu, comme tout le monde, les larmes aux yeux.
Restaurer à l'identique, point d'interrogation, c'est un débat qui maintenant se déploie, parfois avec vivacité. Faire une flèche moderne pour remplacer celle qui s'est effondrée, qui datait du 19e siècle, Viollet-le-Duc. Qu'en pensez-vous, Régis Debray ?
Écoutez, j'ai envie de vous dire que j'en pense rien, j'ai pas d'avis sur tout, mais j'ai simplement... le sentiment qu'il faut donner du temps au temps, comme disait l'autre, c'est-à-dire au fond qu'il serait dommage que pour des raisons de calendrier politique ou de communication, on fasse l'impasse, si vous voulez, sur un certain nombre d'institutions. On a une grande expertise dans la conservation, restauration du patrimoine. Et là-dessus, c'est aux experts de se prononcer. Je ne suis pas expert. Mais là, il y aurait peut-être un exercice de démocratie participative si on réunissait, les grands experts d'architecture, à la fois les historiens et les conservateurs du patrimoine, pour en discuter en public, ce serait formidable.
Ma question portait moins sur le calendrier et la faisabilité d'une restauration à l'identique que...
Non, mais simplement, quand vous dites,
sur la flèche.
Dans 5 ans.
Oui, bien sûr. Mais la flèche, un concours international d'architecture a été annoncé. Est-ce que un monument du patrimoine qui a été abîmé par l'histoire, par l'actualité, là par un incendie, doit garder la trace de cette catastrophe ou au contraire chercher à l'effacer? Est-ce qu'il faut un grand geste architectural ou pas? Ça vous semblerait comment? Ça défigurerait le lieu?
Écoutez, cette flèche, elle a été rajoutée au 19e siècle hein, par Viollet-le-Duc. Donc chaque siècle un peu trouve, je dirais, sa symbolique, sa forme d'expression. Mais là encore, permettez-moi de ne pas vous donner un avis. Lorsqu'on pourra dialoguer avec tous les gens qui s'occupent de ça au ministère de la Culture, quand on pourra voir des projets, bref, un peu comme, si vous voulez, pour la pyramide du Louvre, ça a été discuté, et ça a fait scandale, et finalement, bon...
Mais en tout cas pratique de démocratie participative, possible.
Ce serait une bonne occasion. Jusqu'après tout, Notre-Dame est un symbole national, même international. Donc, si ça intéresse le peuple, eh ben, trouvons des formes de représentation.
Alors, je voudrais vous faire dialoguer, Régis Debray, avec les auditeurs de France Inter. J'accueille à l'antenne Christine, bonjour.
Bonjour, bonjour France Inter, bonjour Régis Debray.
Bienvenue, on vous écoute.
Très reconnaissante d'avoir cité mon poème préféré parmi tous les autres, le cimetière marin, que je me récite la nuit. Voilà, donc j'ai eu le privilège, il y a bien des années, de travailler comme vacataire au manuscrit français de la Bibliothèque nationale sur les manuscrits de Paul Valéry. Et j'étais frappée, notamment les manuscrits des poèmes. Et j'étais frappée parce que ces pages sont surchargées jusqu'à l'excès, jusqu'au marche, jusque partout, de ratures, de repentir, la recherche jusqu'à l'extrême de la possibilité du mot parfait. Et j'en ai gardé l'impression de quelqu'un, sans doute quelqu'un qui sera sûr de lui, la momie, etc., d'un être humain, pas sûr de lui, qui cherchait, qui doutait, qui avait des retours, des questions. Et pour moi, quand vous parlez de l'humanité de Paul Valéry, pour le désemballer de ses bandelettes, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture, à la vision de ces poèmes et de ces manuscrits.
Voilà. Merci beaucoup Christine de partager avec nous les manuscrits tout simplement de Paul Valéry. Régis Debray.
Vous savez madame, qu'est-ce qu'un écrivain? C'est un homme qui ne trouve pas ses mots, donc qui les cherche, et Valéry était un artisan qui cherchait une concision, une pureté, une décantation, et donc c'est un homme qui travaillait. Mais il a eu la même approche de Léonard de Vinci, n'est-ce pas? Il a cherché quelle méthode suivait Léonard. Autrement dit, Valéry, c'est pas un homme, je dirais, de la révélation, de l'illumination. C'est un homme du travail, de la peine, de l'effort. Il allait même jusqu'à dire que le progrès en art, c'est le triomphe de la loi du moindre effort. Monsieur Jeff Koons ne sera pas en contradiction avec ça.
Alain, bonjour. Alain?
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu sur Inter.
J'essaye de lire Monsieur Régis Debray. Je voulais lui poser une question, savoir qui développe un peu la différence ou la complémentarité qui fait entre une république et une démocratie, l'un n'étant pas forcément antinomique de l'autre d'ailleurs. Ou philosophique.
Je lis sur mon écran d'ordinateur, Alain, que vous êtes recteur.
Ah, pas du tout, non.
Ah bah voilà, bah c'est c'est une erreur. Merci beaucoup, et vous avez bien fait de faire la précision. Mille excuses, je n'ai fait que lire ce que j'ai sous les yeux. Régis Debray, différence république et démocratie.
Elle se complète, disons que la république est une forme française de la démocratie. C'est-à-dire, elle est fondée non pas sur le bon Dieu, mais sur la raison, non pas sur une transcendance, mais sur un enseignement. Donc je dirais, la République, si vous voulez, c'est là où il y a, dans chaque village, deux endroits stratégiques, c'est l'école et la mairie. Je dirais que la démocratie à l'américaine, c'est là où il y a deux endroits fondamentaux qui sont l'église et le drugstore. C'est-à-dire, c'est une autre conception où on donne, disons, on donne une sorte de suprématie aux consommateurs, au marché, et on tempère tout ça par une croyance en Dieu, in God we trust, qui est importante parce que qui empêche la guerre de tous contre tous. Mais disons, il faudrait pas que la démocratie devienne celle qui éteint les lumières, si vous voulez.
Paul Valéry avait vu la bascule, l'américanisation du monde, Régis Debray.
Oui, et c'est pourquoi en 45, pourquoi dit-il que l'Europe est finie? Parce qu'il a compris qu'il y avait un renversement du rapport de force, si vous voulez. Lui disait, l'Amérique, c'est une nation développée et déduite de l'Europe. Et il comprend que l'Europe va devenir un système développé et déduit de l'Amérique du Nord. C'est-à-dire, il a compris ce basculement. L'Amérique était notre banlieue, nous allons devenir la banlieue de l'Amérique. En ce sens, il a vu que l'Europe n'était plus la maîtresse des arts, des armes et des lois. Elle n'était plus au centre du monde, celle qui irriguait le monde entier avec ses images, avec ses idées. Mais il a compris que les images, les idées et les techniques s'affranchissaient l'Atlantique, et que nous allions...
Et que l'Occident était encore plus à l'Ouest.
Exactement, et que nous allions devenir un dominion, et non un dominium. Alors, saisir ça en 45, c'est pas mal. Il a toujours eu 30 ans d'avance, ou même 50 ans d'avance sur son temps. C'est pourquoi je dis que c'est un lanceur d'alerte, si vous voulez.
On est en ligne avec Nicolas, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Alors, désolé de quitter la poésie de Paul Valéry. Je voulais demander à M. Debray, en tant que spécialiste du média aussi, avec ses cahiers de la médiologie. J'aimerais savoir ce qu'il pense en fait de l'émergence comme source d'information des réseaux sociaux. Et le développement récent de l'actualité nous montre que pour ce qui est de la propagation des fake news, il y a eu une forme d'inversion sur l'histoire de la piété salpêtrière. Et on voit bien que les réseaux sociaux ne sont pas uniquement des machines à propager des fake news. Et voilà, France Inter... a pris sa part dans la propagation de la fake news de la pitié de sa pétrière, par exemple.
Alors, je peux pas vous laisser dire ça, Nicolas, mais ce serait trop long de vous l'expliquer, donc je vous laisse finir.
Il faut quand même
que je le dise. Réécoutez les journaux.
Je vous écoute tous les matins.
Les mots sont importants.
C'est la propagande de ce que M. Castaner a relayé tout de suite, sans aucune information.
Les mots, Nicolas, sont importants. Propagation de fake news. Réécoutez, s'il vous plaît, tout est en ligne, les journaux d'information. On fait de l'information, donc réécoutez les journaux d'information et voyez bien le choix des mots qui a été fait. Voilà, mais ça, je vous le dis maintenant, je vous écoute.
Non, mais il pose une bonne question.
Mais évidemment qu'il pose une bonne question, dit Régis Debray. Bon, on vous donne la parole, Régis Debray, vous pouvez dialoguer avec Nicolas. Évidemment que c'est une bonne question. Je demande juste factuellement qu'on regarde bien ce qu'on a fait hier.
Non, mais bien entendu, disons que les réseaux sociaux, c'est la pire et la meilleure des choses, mais ça a surtout un danger, c'est la réactivité immédiate. Hein, c'est l'absence de recul, l'absence d'enquête. C'est l'idée qu'il faut toujours arriver avant l'autre. Évidemment, il est évident que on conçoit très mal une attaque d'un hôpital qui est la chose la plus monstrueuse qui soit. Il est vraisemblable, d'après ce que j'ai entendu en vous écoutant, mon cher Nicolas, qu'il s'agissait de gens qui chercher une sorte de refuge, voilà. Bon, enfin, ça signe tout de même, je dirais, le danger que nous avons aujourd'hui de l'injure, de la polémique, du non-respect des faits. Il faut ralentir, voilà. Essayons de ralentir et de pas être dupes de ce temps haché menu où finalement on finit par n'y comprendre plus rien. Trop de nouvelles, c'est pas de nouvelles.
Ça vous convainc, Nicolas? Vous avez votre réponse?
Oui, et ce que je voudrais, je vous remercie, Monsieur Debray, vous avez raison, il faut ralentir. Et je pense que c'est une adresse intelligente aux médias qui courent un peu trop vite derrière, souvent, un pouvoir qui, lui, n'a pas du tout l'intention de ralentir.
Écoutez, on essaye de ralentir, on l'entend en tout cas, on écoute Régis Debray comme vous et avec le même intérêt, mais je vous le dis, il faudrait qu'on prenne le temps d'exploiter ce que vous venez de dire, Nicolas, en détail, et qu'on prenne le temps d'en débattre. Je pense que ça doit être tout à fait possible de l'organiser. Régis Debray.
La réflexion de votre interlocuteur, c'est tout de même, je dirais, un signe des temps qui indique quelque chose sur le climat politique actuel.
Gilles, auditeur par internet, en tant qu'ancien révolutionnaire, Régis Debray, comment jugez-vous la révolution des gilets jaunes?
Écoutez, je ne sais pas si c'est une révolution. Évidemment qu'on a de la sympathie pour, je dirais, l'éruption des dominés chez les dominants, si vous voulez. Et donc, je n'ai aucune condescendance, aucun mépris de classe envers tous ces hommes et surtout ces femmes. Mais je dirais qu'une révolution, c'est une promesse, et qu'une révolte, c'est une colère. Et qu'il n'est pas sûr qu'une colère devienne une perspective. Victor Hugo disait qu'une émeute qui échoue fait toujours le jeu du gouvernement. Non, mais si vous voulez, je trouve que je pense au Black Bloc là, et je vois qu'on retourne à une sorte de nihilisme, de destruction pour la destruction, avant le mouvement ouvrier, car il me semble, si vous voulez, que l'affaiblissement du mouvement ouvrier, l'affaiblissement des syndicats, je dirais la perte de légitimité des forces organisées, crée un espace pour la violence, et une violence anomique, n'est-ce pas ? Une violence qu'on peut qualifier de nihiliste. Alors, René Char disait « agir en primitif, prévoir en stratège ». Je vois bien le primitif chez les Black Blocs, je vois pas la stratégie. Et donc là, il y a quelque chose, si vous voulez, qui nous rappelle tout de même le fond de l'air. Le fond de l'air, c'est qu'on ne sait plus où aller et on ne sait plus où il serait souhaitable d'aller. C'est-à-dire, on ne sait plus, au fond, où est notre futur. Mais là, je dirais que les forces politiques sont tout de même un peu responsables, et notamment le ralliement du socialisme officiel au capitalisme financier est tout de même quelque chose qui malheureusement crée un vide, et le vide est rempli. Pas parce qu'on souhaiterait, mais par ceux qui sont là.
Merci Régis Debray d'avoir été à notre micro ce matin. L'Europe fantôme dans la collection Tract chez Gallimard, c'était le tout premier numéro, et Un été avec Paul Valéry, coédition France Inter Équateur, disponible dans les bonnes librairies. Merci d'avoir été avec nous, le carrefour du 7-9 à suivre, très en retard.